Bienvenue dans Soif de Sens. Aujourd'hui, c'est un épisode bonus sur comment éviter la crise de la quarantaine. Je te rassure, ça marche aussi si t'as 20, 30 ou 50 ans. Moi, toute ma quête de sens, en fait, elle part de là. J'étais terrorisé à l'idée de me réveiller à 40 ans et de me rendre compte que j'étais passé à côté de ma vie. Alors, je te raconte tout ce que j'ai mis en place pour éviter que ça m'arrive, en espérant que ça t'évite aussi une crise de la quarantaine, la vingtaine, cinquantaine ou autre, t'as compris. On est entre potes avec Victoria, qui m'a interviewé sur son podcast Nouvel Oeil. Victoria, tu l'as peut-être déjà entendu dans le Soif de Sens numéro 54 sur comment devenir adulte dans un monde immature, épisode qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Allez, je vous laisse avec Victoria et moi sur comment éviter la crise de la quarantaine.
Salut Pierre.
Salut Victoria.
Je suis avec Pierre Chevel. Alors on va pas faire genre on se connaît pas, parce qu'on se connaît déjà un petit peu. On parle depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux et on s'est officiellement rencontrés hier soir. Pierre, tu es le créateur du média Soif de Sens, donc on fait presque la même chose. Sauf que toi tu filmes aussi, tu mets une petite caméra. Tu es l'auteur de la trilogie Changer le monde en 2 heures. Et alors tu as fait le parcours très classique, une classe prépa, 5 ans à l'ESCP et 1 an à HEC. Donc tu as visé le top du top. Mais tu dis avoir détesté tes années en école de commerce.
Oui, à 100%.
on va en reparler, mais avant toute chose, comme à tous mes invités, Pierre, on va aller charcuter le petit garçon que tu étais quand tu avais 7 ans. Est-ce que tu peux nous parler de toi petit ?
Je pense que j'étais très joyeux, très simple. Et c'est un peu l'image que... J'ai de l'enfance de tout va bien, il n'y a pas vraiment de temporalité. J'avais la chance d'avoir des super potes pour certains que j'ai encore aujourd'hui. Et même si tu vois, mes parents ont divorcé, donc c'était pas tout rose non plus. Mais clairement, par rapport à beaucoup de gens, j'ai clairement eu une enfance heureuse.
Et qu'est-ce qui te plaisait En quoi tu occupais ton temps? Tu aimais lire, te cultiver? Ou pas du tout, te promener dans la nature?
Non, c'est pas
que t'as grandi,
Je m'obligeais à lire des bouquins, mais... Ouais. Non, je traînais beaucoup chez les voisins. J'ai fait 10 ans de trompette. J'adorais faire des cabanes avec mon meilleur pote, ça c'est clair. Le premier truc qui me vient en tête, c'est qu'à 9 ans, ma mère m'a envoyé dans une famille en Angleterre pendant 6 mois. Et du coup, ça a été un peu ça, ma chute du paradis, quoi, de me retrouver 6 mois dans une famille indienne à Loughborough, à côté de Londres, à 9 ans, pour apprendre l'anglais. Donc, mon correspondant était venu 6 mois dans ma famille. C'était bien passé. Et après, moi, j'y suis allé 6 mois là-bas. Et moi, qui avais une vie toute pépouse jusque-là, ça a été ultra violent pour moi. J'avais jamais vraiment vécu d'adversité dans ma vie et c'est une épreuve qui m'a beaucoup fait grandir par la suite, quand j'ai compris que, en fait, ça m'avait quand même un peu traumatisé, même si je l'ai compris qu'à 20 ans, que j'en avais beaucoup voulu à mes parents de ne pas m'avoir laissé rentrer.
À 18 ans, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire une classe prépa pour intégrer une école de commerce ?
J'étais un mouton, on va dire. je pense qu'à 18 ans, la plupart des gens, en tout cas moi, autour de moi, on était très spectateurs de nos vies, et tu te laisses porter par le flux, et si t'as des bonnes notes et que... tes parents ils disent peut-être ça peut être bien de faire une prépa, tu vas en prépa, quoi. Donc c'est un peu le choix du non-choix, hein. Tu te laisses porter parce que tu sais pas ce que tu veux faire, donc tu te gardes un maximum de portes ouvertes, ce qui à terme, en fait, dans mon cas, était une bonne stratégie, même si c'est pas toujours le cas.
Donc après ta classe prépa, tu décroches ton billet d'entrée pour une des plus grandes écoles de commerce, et quand tu arrives, tu prends une claque littéralement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton atterrissage à l'ESCP?
Encore une fois, comme beaucoup de gens, en fait, c'est vrai que j'ai travaillé comme un dingue pendant 2 ans pour intégrer une école et pour réussir ma vie, quoi. Il se trouve que, en l'occurrence, moi, j'ai adoré la prépa, contrairement à 90% des gens, parce que intellectuellement, le défi, c'était passionnant. Notre thème, c'était la vie, donc on travaillait beaucoup justement sur le sens de la vie en philo et en lettres, et du coup, moi, ça m'a apporté beaucoup de réponses à mes questions et donc j'avais un vrai sens à ça, et j'avais pas réfléchi plus que ça que... En fait, c'était assez évident quand tu me connais de savoir que, en tout cas à l'époque, j'avais pas du tout cet ADN entrepreneur à ce moment-là, que une école de commerce, c'était genre vraiment non. Moi, j'étais plus effectivement journalistique ou psychologie ou des trucs comme ça. Donc, il y a eu plein de chocs, en fait. Il y a le choc de monter à Paris, qui est un choc très fréquent pour des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Mais on t'arrache à tes potes, à la ville où t'as grandi. Moi, j'ai grandi à Toulouse. à tes habitudes. Puis c'est la capitale, t'as vraiment l'impression que c'est un fauve qu'il faut que t'arrives à dompter. Et donc t'as la violence de la densité, de la pollution, des petits apparts, de pas de sous. Il y a la violence de quand même de me retrouver avec des gens qui ont pas forcément. Alors, ma famille est loin d'être pauvre, mais on n'a pas du tout une culture bourgeoise où il faut gagner l'argent, c'est hyper important, ou enfin pas du tout. Enfin, tu vois, mon père est médecin, et il roule en Clio, quoi. Donc
ouais, c'est donc très bien, clairement.
Ouais. Donc clairement le côté, je veux gagner un max de thunes et faire une grande carrière en entreprise.
C'était pas ça.
Dans ma famille, on connaît pas trop. C'est pas en jugement par rapport à ce groupe social là, mais genre du coup forcément, je me retrouvais pas dans les discussions, quoi. Donc il y avait vraiment une erreur de casting, clairement, mais où clairement j'ai ma grosse part de responsabilité. Et du coup de me rendre compte, mais en fait, jusque là, pendant quelques mois t'es mal et t'en veux à tes parents, quoi. T'es là, mais pourquoi vous m'avez fait aller en prépa? Mais en fait, il y a un moment, t'as 18-20 ans, t'es un adulte maintenant. Donc est-ce que tu veux te plaindre pendant toute ta vie que c'est la faute de tes parents si ton métier il te plaît pas, quoi? Ou est-ce que tu deviens un adulte et tu prends tes responsabilités et tu te dis ok, qu'est-ce que je veux faire, quoi? Mais donc le truc qui me drivait le plus, qui me motivait le plus, pardon pour les anglicismes, c'est le côté école de commerce, justement. Non, pas que c'est pas vrai. J'étais terrorisé par la crise de la quarantaine, quoi. Et bon, en vrai, j'avais 20 ans, donc c'était pas vraiment une crise de la quarantaine, mais l'idée de un jour me dire ça fait 20 ans que je suis marié à cette personne, ça fait 20 ans que je fais ce métier, et en fait, aucun des deux me... Enfin voilà, je me suis juste laissé porter et en fait, ma vie, c'était une farce, quoi. Genre.
Mais qu'est-ce qui te faisait peur en imaginant ce monde-là? Est-ce que c'était en voyant des gens qui, justement, avaient 40 ans et que tu voyais un peu névrosés, ou est-ce que tu t'imaginais que la vie était comme ça?
Ouais. Les deux, quoi. À la fois de voir des gens autour de moi où, clairement, la plupart des gens, j'ai l'impression, ils aiment pas leur boulot, quoi.
Oui,
et c'est, du coup, ça rejoint aussi aujourd'hui plein de thématiques, anticapitalistes et où on pressurise les gens et clairement. La société n'est pas organisée autour du bien-être des gens au travail. Et à la fois, juste de voir en école de commerce, on te dit, voilà les grands métiers qui existent quand tu sors d'école de commerce, donc en compta, en finance, en ressources humaines, etc. Mais je voyais à des kilomètres à l'avance que je ne serais pas heureux là-dedans, quoi.
Oui.
Et tu vois, si je kiffais, j'en sais rien, la compta ou la communication, j'aurais très bien pu me dire, ça ne veut pas dire que ces métiers sont pourris. Juste que moi, vraiment...
Ça ne te faisait pas rêver, quoi.
Non, c'était juste évident que du coup j'essayais de me convaincre moi-même que peut-être que j'allais trouver quelque chose. C'est comme quand tu scrolles sur les sites d'offres d'emploi et t'es là, non mais il y en a une sur 100 là, c'est pas si horrible que ça et tout. Non mais en fait, c'est un privilège, j'en ai conscience, mais encore plus si t'as la chance d'avoir fait des bonnes études, essayer de trouver un job qui te rend heureux, quoi. Enfin, genre, ça me semblait pas demander le...
Et à aucun moment tu t'es dit, de toute façon, il faut trouver quelque chose. Il a habité grand, c'est peut-être ça, finalement, faire quelque chose, un métier qui nous plaît pas tant que ça, mais il faut bien payer les factures, donc on va faire comme tout le monde.
Ah c'est pour ça que j'ai fait une dépression. Moi, je cherchais autre chose, mais j'avais pas l'impression, je savais même pas si ça existait, quoi. Donc, t'es dans le noir et t'es là,
Donc, sortie de tes études d'école de commerce, qu'est-ce qui se passe pour toi?
Il y a plein de petites briques qui ont permis que je fasse un virage à 360 pendant ma deuxième année de césure. 80% des gens en école de commerce font des années de césure, donc tu fais des stages, un double diplôme, du voyage, etc. Et moi, du coup, au lieu de chercher un stage, j'avais très envie d'écrire un premier bouquin sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa HEC. Mmh. Donc depuis que j'avais intégré l'école et que du coup moi j'avais pas mal fantasmé cette période-là de la prépa et au contraire détesté l'arrivée en école, je sais pas pourquoi pendant l'été après la prépa j'ai eu vraiment cette envie très forte d'écrire un bouquin. J'étais là, c'est trop bête qu'il y ait plein de gens qui passent les concours et que il y a plein de savoir-faire que moi j'ai récupéré d'autres personnes, que les profs m'ont pas appris ou des méthodes de travail que j'ai inventées. Donc pendant le début de ma première année de césure, au lieu de faire un stage, du coup j'ai écrit ce premier bouquin et ça dans ma tête ça a ouvert plein de portes parce que c'était pas quelque chose que j'étais censé faire, c'était un projet un peu entrepreneurial, de se dire aussi mais en fait écrire un livre c'est un truc waouh dans la tête des gens et en fait non, c'est une longue dissertation, quoi. Et tu peux le faire. Et après en gros au moment où j'ai fait la soirée de lancement du livre à l'ESCP, j'étais en formation en même temps pour mon premier stage mon seul gros stage en vrai en mode capitaliste chez KPMG, qui est une grosse boîte d'audit comptable. Et du coup, c'était vraiment le grand écart, quoi. On était en formation à Paris, mais je faisais mon stage à Toulouse. Et là, ça a été les 6 mois les plus horribles de ma vie. Et juste après, du coup, j'étais tellement au fond du trou et en dépression que j'avais décidé de faire une deuxième année de césure, juste pour m'acheter du temps, en fait, pour qu'il puisse se passer d'autres choses, parce que j'étais là, bah, en fait, si là, dans 6 mois, je commence mon Master 2, bah, ton Master 2, souvent, tu vas faire ton stage de fin d'études, dans l'idéal, c'est ton stage de pré-embauche. Bah, je voyais absolument pas, ne serait-ce un secteur, tu vois, qui puisse, où je puisse m'épanouir, quoi.
Et donc, comment tu as utilisé ce temps-là pour toi, pour cultiver qui tu es?
Ouais. Bah, du coup, j'ai fait beaucoup de stages. Je crois que j'ai fait vraiment beaucoup de stages. Par rapport à tous les gens qui font 2 années de césure, souvent, effectivement, ils vont voyager. Et, bah, je me suis retrouvé, par chance, chez Spark News, qui est une startup qui aide les médias à parler de solutions et pas que des problèmes. Et donc là, j'ai plongé dans l'écosystème entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire et tout ça. Déjà, ça m'a ouvert sur un monde. Ah, mais en fait, il y a plein de gens qui font des trucs drivés par la passion et pas forcément juste par, ouais, par le business. Et qui résolvent des vrais problèmes de société, quoi. Pas juste vendre une nouvelle boisson hyper calorique ou des couches culottes ou j'en sais rien. Enfin, bon, les couches culottes encore, ça peut être utile, mais et derrière, j'ai fait 1 an chez Ashoka, et là, c'est vraiment là que ça a enfoncé le clou, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, et c'est une des plus belles expériences de ma vie où chaque année, ils sélectionnent les un peu la crème de la crème, c'est un peu élitiste. Mais du coup, par contre, derrière, ils les accompagnent avec du réseau, du financement, des compétences. Et du coup, moi, j'accompagnais 10 entrepreneurs dans la santé et dans le handicap à changer d'échelle et à démultiplier leur impact, quoi. C'est incroyable d'être aussi jeune et de côtoyer des entrepreneurs d'aussi près et de se rendre compte que c'est des gens normaux et qu'ils galèrent, mais ils sont complètement animés par ce qu'ils font et un peu comme les gens qu'on interview, quoi. Et de voir des gens qui ont des étoiles dans les yeux et qui changent des milliers de vies et t'es là, mais waouh!
Et donc, à partir de quel moment vraiment tu t'es dit je me mettrai à mon compte indépendamment et je vais créer mes propres projets?
Juste après, du coup, ma dernière année, je savais que j'avais trop envie que d'autres gens sachent que, en fait, il y a plein de projets qui existent et un peu quand tu tombes là-dedans, t'as envie de le dire à la terre entière, mais regardez, il y a plein de gens qui font des choses géniales.
Vous n'êtes pas obligé de subir votre métier, vous pouvez aimer ce que vous faites tous les jours.
C'est ça. Et comme j'avais déjà écrit ce premier bouquin, c'est pour ça que c'était super important à ce moment-là, je savais que j'en étais capable, combien de temps ça prenait. Et du coup, j'étais quand tu seras diplômé et que tu vas bosser dans une start-up sociale ou quoi, le soir, tu vas rentrer chez toi, tu n'auras pas envie d'écrire un bouquin sur le même sujet en plus. Tu seras KO et voilà. Donc, fais-le pendant ton Master 2. Et donc, pendant ma dernière année d'études, j'ai écrit « Changer le monde en 2 heures ». Donc, c'est 10 projets socio-écolo qui ont déjà un impact et auxquels c'est facile de contribuer. Et donc, j'ai écrit ce tome, je sais pas que ça allait être le tome 1, mais...
Il y a eu 3 tomes.
Voilà.
Et tu mets beaucoup l'accent sur l'engagement. Ouais. Et tu dis que ça aide justement à trouver ce qui nous plaît, parce que parfois, on est juste paumé et on sait pas ce qu'on veut faire. En quoi s'engager, ça peut nous permettre de cultiver qui on est?
Il y a 2 trucs. Tu vois, moi, si j'avais pas écrit ce premier puis ce deuxième bouquin, je me serais pas rendu compte que, en fait, j'adorais ça et que du coup, ça pouvait devenir mon métier. Jamais je me serais dit oui, je vais devenir auteur, puis youtubeur, puis podcaster, alors que ça existait même pas trop. On apprend beaucoup plus par la pratique que par la théorie, ça c'est évident. Et 2, oui, moi je crois énormément à l'action, quoi. On est dans une société où voilà, on te réduit au rôle de soit travailler pour souvent quelqu'un de riche, soit quand t'as fini de travailler, consommer pour le redonner à quelqu'un de riche. Et du coup, on nous incite à être hyper spectateurs et consommateurs de nos vies plutôt qu'à lancer des projets, qu'à rayonner, qu'à militer, qu'à créer des choses, qu'à trouver sa voie. Et c'était quoi la question? Oui, et du coup, forcément...
En fait, s'engager, oui. Ça peut t'aider à trouver qui tu es.
Le monde, il est tellement grand, encore plus si là, toi qui nous écoutes, t'es jeune, t'as peut-être pas... Et même quand t'es moins jeune, d'ailleurs, il y a plein de choses que t'as jamais testées et il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent chaque année, de nouvelles expériences que tu peux vivre et tu peux pas savoir avant de l'avoir fait que t'es passionné de cuisine moléculaire ou de manga ou de et que en fait tu pourrais avoir une passion autour de ça, voire en faire ton métier et donc il faut goûter un maximum de choses comme sur un énorme buffet. J'aime bien cette métaphore de ton plat préféré, tu savais pas que c'était ton plat préféré avant de l'avoir goûté, quoi.
Carrément.
Et donc mange du chocolat, mange du poulet tandoori, mange plein de trucs pour voir ce qui te plaît.
On va revenir sur la façon dont tu décrivais la société là juste avant, la petite digression que tu viens de faire.
Ouais.
Tu as fait un TEDx 2 heures pour devenir un citoyen et tu l'introduis en disant qu'une personne sur 2 estime passer à côté de sa vie. Comment tu l'expliques ?
C'est une bonne question. Ah, il y a beaucoup de raisons. À l'époque, j'avais fait une vidéo justement sur tout 10 raisons qui font qu'on est plus en quête de sens aujourd'hui qu'avant. Donc il y a des raisons un peu macro, pas forcément très sexy, mais qui sont à mon avis profondes, de bah voilà, monter de l'individualisme, on appartient moins à des groupes, on vit moins en famille sous le même toit, etc., avec plusieurs générations, le recul de la religion qui apportait beaucoup de réponses aux questions, l'arrivée des télécommunications qui font que du coup on communique beaucoup plus, donc on se pose mille fois plus de questions, quoi. Moi, à chaque fois, mon père, je lui pose des questions sur... Et comment t'as réagi quand papy t'a dit ça, ou comment c'était quand t'étais petit, ça, mais tu me fais chier, on se posait pas autant de questions à l'époque, quoi.
Arrête avec tes questions.
Et à la fois, oui, je pense qu'il y a clairement un côté, on te vend un mensonge, en fait, que bah si tu fais telle étude et que tu trouves tel bon job, bah tu seras heureux. Et si tu consommes, et ben tu seras heureux. Et sauf que on voit très bien que ça marche pas, mais on continue de le faire. Et bah du coup, on est en quête de sens.
Comment on change le monde en 2 heures?
Je crois pas qu'on puisse changer le monde en 2 heures. Encore moins aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai changé de nom, justement, de changer le monde en 2 heures à soif de sens. Par contre, je crois pas qu'il faille attendre d'être parfait pour agir. Et je crois qu'en 2 heures, on peut déjà faire plein de choses. Si j'ai choisi ce titre, qui était évidemment provoque, c'est aussi parce que changer le monde, on met ça un peu sur un piédestal. On se dit, voilà, faut être Zuckerberg ou Bezos pour changer le monde. Et en fait, c'est un truc un peu flou qui permet aussi de se déresponsabiliser, de dire, ok, mais non, il faudrait que on puisse éradiquer la pauvreté pour changer le monde. Bah oui, ok, mais bon, tu vas pas éradiquer la pauvreté. Donc en fait, souvent, c'est parce qu'on n'a pas défini ce que ça voulait dire pour nous. Et peut-être que changer le monde pour toi, c'est aider une personne SDF qui est dans ta rue. Enfin, si t'arrives à changer ça, franchement, pour moi, ça change le monde, quoi. Et c'est, en fait, c'est à partir d'où tu mets le seuil de ok, alors là j'ai économisé 10 tonnes de CO2, donc ça y est, j'ai changé le monde, mais par contre à 9,5 tonnes, non, là j'y suis pas encore, quoi.
Et pour toi, c'est quoi changer le monde?
Pour moi, c'est aider un maximum de gens à devenir acteurs de leur vie. C'est pas changer le monde au sens classique forcément militant qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que t'aides les gens à passer de spectateurs à acteurs de leur vie.
Comment on fait?
Bah tu te bouges le cul.
Ah, mais c'est facile à dire, mais concrètement, comment on fait?
Bah, c'est un muscle. Je pense que c'est... Moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir grandi avec, même si, encore une fois, je suis privilégié, donc j'ai eu la chance d'avoir des expériences, effectivement, de partir en Angleterre, d'avoir des loisirs, de faire de la trompette ou d'autres trucs. Mais j'étais encore hyper, hyper passif, quoi. Et donc, si... Je pense que moi, j'adore écrire, et du coup, ça m'aide à me connaître beaucoup. Et avoir une intuition forte comme à 18 ans, je vais écrire un bouquin sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa, puis sur des moyens de s'engager, et que ce soit tellement fort chez toi que tu dises, mais en fait, enfin, c'est même pas une question de est-ce que je suis légitime ou pas, juste je le fais parce que...
C'est intrinsèque.
Voilà, si toi, ta passion, c'est, je sais pas, comme toi, la danse ou la rando ou les réseaux sociaux ou n'importe quoi, mais juste multiplie les projets, quoi, et... Plus tu passes à l'action, plus c'est facile de passer à l'action.
Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui se cherchent un petit peu?
De goûter un maximum de trucs sur ce buffet, quoi. De pas tomber dans le piège de c'est la faute de la société, c'est la faute de mes parents, et c'est peut-être le cas en partie. Maintenant, est-ce que tu as vraiment envie de dire ça pendant 50 ans? Est-ce que tu penses que... moi, j'ai 2 parents qui râlent beaucoup. Du coup, je suis allergique aux gens qui râlent. Mais... même si, peu importe que ce soit vrai ou pas, en fait, cette croyance-là te rendra malheureux. Est-ce que tu crois que t'es plus heureux en croyant que t'as une marge de manœuvre et que tu peux changer les choses dans ta vie, ou en croyant que le monde va super mal et que tu peux rien y faire, quoi? Et clairement, je nie pas du tout qu'il y a plein de trucs qui vont mal dans le monde. Il y a vraiment, et je suis dedans régulièrement, même tous les jours, ce choix que je dois faire 100 fois par jour entre le confort, le plaisir du court terme, la flemme. Donc regarder une série, ne pas faire ce projet, ne pas avoir cette discussion difficile, avoir la flemme d'aller faire du sport ou de lancer ce projet, et les trucs qui demandent un peu d'effort mais qui me rendent heureux sur le long terme. D'oser dire à tes parents que tu les aimes, d'oser lancer ce projet, d'oser contacter je sais pas, ce sportif de haut niveau ou cette podcastrice qui t'inspire pour lui demander juste de parler 15 minutes avec toi de son métier qui la passionne, d'oser lancer cette boîte, d'oser faire ce voyage qui en fait te fait rêver, ou même d'oser faire des trucs qui t'inspirent pas tant que ça, mais juste t'es curieux quoi. Et en fait, tu vas vivre une expérience. Et souvent, c'est quand tu te lances dans le vide que tu découvres le plus de trucs sur le monde et sur toi. Et si ça se trouve, tu vas découvrir que ça te plaît pas et bah t'auras appris quelque chose. Et en fait, peut-être que dans l'aube, en fait, tu seras fait un super copain. Peut-être que du coup, ça t'aura amené à autre chose. Et en fait, tu vas contacter, j'en sais rien, un kiné parce que tu te dis, bah, on sait pas, peut-être kiné, c'est fait pour moi. Et puis en fait, au kiné, un de tes patients, ça va être un consultant. Et en fait, tu vas devenir consultant parce que tu trouves ça trop cool d'accompagner des entreprises, quoi. C'est une loi physique, quoi. Le mouvement appelle le mouvement. Démarrer un train, c'est super galère, ça demande énormément d'énergie. Mais une fois que ton train, il est en route, bah, ça demande pas beaucoup d'énergie de garder la même vitesse, de changer la direction, voire d'accélérer. Et ben, pour nous, c'est pareil.
Ça t'a pas fait peur de lancer ce train-là, toi, à la sortie de tes études ?
Non, j'avais pas le choix, en fait. Enfin, j'étais tellement malheureux et au fond du trou. J'ai envie de dire, c'était une question de survie, quoi. C'était pas une question de survie ni économique ou quoi que ce soit, mais mentalement, ça me terrorisait de passer 40 ans dans des grandes entreprises ou des petites entreprises à un truc où j'étais pas à ma place, quoi. Donc c'était...
Tu étouffais.
Ouais.
Comment tu t'entourais à cette période-là ? Est-ce que tu avais des amis qui comprenaient ta position et qui la partageaient, ou est-ce que tu te sentais complètement différent et t'étais très solitaire ?
Ben, ça dépend de quel cercle on parle, quoi. À l'ESCP, clairement, j'avais pas d'avis. Mais aussi, voilà, parce que je me suis beaucoup renfermé sur moi-même et j'ai pas fait énormément d'efforts non plus. Donc, j'ai clairement ma part de responsabilité. Et du coup, c'est plus quand j'ai commencé justement à faire des stages dans l'entrepreneuriat social où forcément, bah, j'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes aspirations que moi, qui questionnaient le monde comme moi. Et du coup, la plupart de mes potes d'aujourd'hui, c'est de cette époque-là. Donc, à ce moment-là, j'étais boulimique, franchement. Je faisais mon stage et clairement, des fois je finissais très tard. Je lisais plein de bouquins sur le sujet. J'allais à toutes les conférences que je pouvais là-dessus. Il n'y avait pas un seul truc sur mon fil Facebook, parce qu'à l'époque on était surtout sur Facebook, que je lisais pas. Vraiment, je dévorais tout ce que je pouvais sur les entrepreneurs sociaux et les gens qui changent le monde, quoi.
Aujourd'hui, pour toi, réussir sa vie, c'est quoi ?
C'est au moins être heureux, ça c'est clair. Et. Ouais, rayonner. Je sais jamais trop ce que je mets derrière ce mot-là, mais c'est ça que je cherche, moi, chez les gens que j'interview. Ça se voit qu'ils sont à leur place, quoi. Ça se voit qu'ils ont des frissons quand ils travaillent au quotidien. Ça se voit qu'ils sont passionnés et passionnants. Et alors, c'est pas forcément militer. Si ça se trouve, toi, t'as envie d'être musicien. Si ça se trouve, t'as envie d'être un entrepreneur business classique, etc. Des gens qui sont à leur place et, alors, souvent, qui sont quand même mus par une envie de servir une cause plus grand qu'eux ou par une passion. Mais ouais, il y a des gens qui sont beaux, quoi. Pas physiquement, évidemment, mais tu les vois et tu te dis, mais j'ai trop envie d'être comme cette personne, même si je suis pas du tout expert en permaculture ou en éducation alternative, mais elle a l'air tellement heureuse de faire ce qu'elle fait et ça a tellement du sens pour elle que ça transpire de partout. Et tu vois que cette personne, elle fait du bien autour d'elle et qu'elle inspire des gens et...
Et donc réussir sa vie, la première chose que tu as dite, c'est être heureux. Est-ce que toi, tu es heureux ?
C'est une bonne question. Je pense que oui, mais que je le prends souvent pour acquis. Et donc j'ai envie d'avoir beaucoup plus de gratitude. Depuis quelques semaines là, j'essaie de dézoomer un peu. Je me dis, mais enfin Pierre, t'as une vie de ouf. Tu viens d'épouser une nana incroyable. Tu vis de ta passion avec tes interviews. Tu contribues à changer le monde en parlant de racisme, d'écologie ou de féminisme. Et en plus, évidemment, t'es un mec blanc dans un pays super riche qu'est la France. T'es pas en galère d'argent. T'es en bonne santé. Enfin, et ouais, d'avoir plus de gratitude, de ressentir plus.
Tu l'oublies cette chance parfois ?
Ah bah oui, bien sûr. Je pense qu'on l'oublie tous, mais. Et aussi parce que encore plus quand t'es entrepreneur ou que comme nous tu sors une interview par semaine, tu peux être vite dans pas comme dans un job normal en fait, dans ta petite roue de hamster, de savourer, tu vois. Là je me dis Victoria c'est trop cool, c'est une nana que j'ai rencontrée sur Instagram l'année dernière et là on est en train de faire cette interview et après j'ai trop hâte de t'interviewer et je suis en train de passer un trop bon moment à parler des trucs qui me passionnent et après j'ai trop hâte de savoir toi qu'est-ce qui te met des étoiles dans les yeux. Et ben profite quoi,
ouais.
Plutôt que d'être en train de te dire attends, c'est quoi la réponse qui fait bien à la question de Victoria et juste de
se détacher de son mental en fait.
Ouais, d'être plus dans l'instant présent.
Ouais. Le fameux. Et tu arrives quand même à t'ancrer dans le présent. Ou c'est dur.
Oui, je veux dire c'est dur. Oui, clairement c'est dur. J'ai beaucoup de chance d'avoir une chérie qui sait pas faire autrement. Elle est vraiment voilà, comme un enfant ou comme un chien, tu vois, il se pose pas la question, il est trop heureux juste d'être dans le présent et de vivre sa vie. Donc ça m'aide beaucoup. À chaque fois, je suis « Pourquoi t'es tout le temps heureuse, là? Il se passe rien, t'sais. » Mais du coup, ça m'aide à savourer chaque truc. Et il y a quelques années aussi, j'ai fait un gros virage dans le minimalisme.
Oui, c'est vrai ça. On en a pas parlé, mais tu peux nous raconter.
Bah justement, au début, c'était faire du tri dans ses affaires. Parce que mon père accumule énormément de choses. Et donc, j'ai eu un peu l'excès inverse. Mais je pense que c'est aussi grâce à la prépa, parce que bah, on te donne des polycopiés qui font des centaines de pages et tu dois faire le tri, quoi. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui l'est pas. Mais du coup, après, j'ai réussi à appliquer ça dans le reste de ma vie, en fait. C'est aussi faire le tri dans tes relations, faire le tri dans tes activités, qu'est-ce qui t'apporte vraiment de la joie, dans ton alimentation, dans tes newsletters, dans... Voilà, enfin voilà. Et du coup, pour moi, c'est une vraie philosophie de vie d'apprendre à choisir. Et du coup, ça, pour moi, ça rejoint le côté spectateur-acteur, parce que en grandissant, j'ai l'impression qu'on m'a pas appris à choisir, que la société nous apprend pas à faire des choix. Et que bah, la prépa, t'en parlais, c'était un non-choix. Et du coup, ma première vraie décision d'adulte, c'était de dire j'ai besoin de faire une deuxième année de césure. Et c'est à partir du moment où j'ai pris les rênes de mes choix et où j'ai aussi appris à faire ces choix bah, pas en fonction, même inconsciemment, de « Attends, est-ce que je le fais pour mes parents, pour plaire à quelqu'un, pour la société ou parce que c'est mieux de prendre un CDI que d'entreprendre ?» Non, est-ce que moi, c'est ça qui me parle le plus d'essayer de vivre de mes bouquins et de mes interviews YouTube et podcast? Bah, à partir de ce moment-là, c'est là qu'il y a eu des trucs magiques qui sont passés et que forcément, pas t'es aligné avec toi-même, quoi. Et même si tu te trompes dans tes choix, bah, c'est mille fois plus facile à vivre si c'est toi qui t'es trompé que si c'est quelqu'un d'autre qui a décidé pour toi, quoi.
Tu as mis du temps avant de vivre de tes passions?
Pas tant que ça. J'étais assez surpris parce que quand même, c'est un délire de se dire que... Alors, les livres étaient en auto-édition, mais donc c'est quand même un délire de se dire je vais vivre de mes livres en auto-édition, quoi. Parce que bah du coup, t'as beaucoup plus de marge, mais dans ma tête, c'était un peu... Bah voilà, c'est comme si je vendais des t-shirts ou des kebabs un peu chic à 10-15 euros. Mais c'est un peu le cas, quoi. Il suffit que t'en vendes suffisamment pour avoir un SMIC, quoi. Et bah c'est quand le tome 2 est sorti, du coup. Donc quand le tome 1 est sorti, j'avais fait un crowdfunding qui avait bien marché, donc j'étais là, mais en fait, il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse, et en fait, bah ouais, c'est un produit comme un autre, et je pourrais essayer d'en vivre. Et donc là, j'avais décidé de pas chercher de job, et de faire sortir un livre par an. Et quand le tome 2 est sorti, bah du coup, tous les gens qui avaient aimé le tome 1 ont acheté le tome 2. Et ouais, du coup, là, j'étais là, ah ouais, en fait, je peux carrément en vivre. Et donc après, bah, ça a été des conférences, des vidéos YouTube sponsorisées ou bah, maintenant sur le podcast Soif de Sens. Donc non, en vrai, bah, le crowdfunding m'a quand même permis de récupérer 6 000 euros, donc de m'acheter du temps. Mais en un an et demi, bah, moi j'étais prêt à galérer pendant beaucoup plus longtemps que ça, quoi. Donc clairement, j'avais un peu d'argent de côté, ce qui est pas possible pour tout le monde. Non, du coup, c'est allé assez vite, mais en fait, si t'essaies pas, tu peux pas savoir, quoi.
Clairement.
Sur le papier, n'importe qui m'aurait dit, enfin pas n'importe qui, je sais pas, mes parents ou d'autres gens.
T'es un peu naïf, hein, t'es un peu rêveur, Pierre.
Ouais, tu vas mettre 10 ans à en vivre, et enfin même pas, t'arriveras jamais à en vivre, quoi. Mais en fait, c'est des trucs tellement atypiques que pas personne peut savoir à part celui qui va essayer, quoi.
Exactement. Pierre, dernière petite question pour conclure cette interview. En quoi c'est important aujourd'hui, dans une société où tout va vite, de retrouver le goût du temps long, de prendre le temps?
Bah, sinon, tu risques de passer à côté de ta vie.
Rien que ça.
Et je sais pas pourquoi j'ai des frissons et je deviens tout émotionnel, mais bah, ouais, pour moi, c'est le pire truc qu'on puisse souhaiter à quelqu'un, quoi, de se réveiller et de se dire, peut-être là, vous avez 18, 25, 30 ans, et vous dites, purée, ça fait 2, 3, 5 ans que je suis pas dans le bon secteur d'études ou je suis pas dans un job qui me plaît, etc. Et du coup, déjà, c'est trop cool que vous soyez, ça puisse vous révolter de dire, bah mince, en fait, c'est du temps que je pourrais pas rattraper. Mais imaginez si vous vous dites encore ça à 60 ans, quoi, à 80 ans. Est-ce que, ouais, moi je réfléchis beaucoup sur le long terme, en fait, et de me dire, à 90 ans, qu'est-ce que mes petits-enfants ils me diront si j'ai défoncé la planète? Ou qu'est-ce que moi je me dirais si j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire et qui me rendait heureux et qui pouvait aider les autres, quoi? Surtout en prépa, t'as tellement de trucs à faire, vous allez voir le lien, ça sort pas de nulle part, que très souvent tu vas être occupé, mais pas productif. Et tu vas faire plein de trucs, tu vas t'agiter dans tous les sens pour réviser ton partiel, mais en vrai, t'aurais pu en faire 4 fois moins et t'aurais une meilleure note, quoi. Et c'est pareil dans plein de boulots où tu vas t'agiter dans tous les sens et parce que la plupart des trucs qu'on va te demander sont pas forcément très utiles, voire contre-productifs. Alors que si tu ralentis un peu, bah, tu peux avoir beaucoup plus d'impact, quoi.
Elle est à l'essentiel. Ça rejoint le minimalisme.
Ouais, complètement. Et ça, dans l'engagement militant et citoyen aussi, moi, je pense que je me suis lancé assez vite dans les micro-engagements, les trucs de colibri, les bonnes actions et tout. Et j'ai mis du temps avant de dézoomer et de me dire, mais en fait, c'est tout un système capitaliste qu'il faut changer, patriarcal et qui se fout des animaux et de la biodiversité. Et donc mon diagnostic de base, il était pas bon. Dans un sens, faire des petites actions, des micro-engagements, ça m'a permis d'aller vers des actions plus, qui veulent changer le système, plus militantes. Et en même temps, s'il n'y avait pas des gens qui m'avaient secoué, des partagés sympas, des Thinkerview ou d'autres médias engagés, j'aurais pu rester toute ma vie dans un truc où on fait pas pipi sous la douche et ça va sauver la planète. Non, en fait, clairement on voit très bien que c'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'importance de ok, c'est quoi le constat de départ, et alors que ce soit pour militer et changer le monde, ou que ce soit pour qu'est-ce que je veux faire de ma vie, plutôt que de se ruer vers le truc qui rapporte le plus ou qui est le plus à ta portée de main, quoi. Ouais.
Très bien, merci beaucoup Pierre pour tous ces partages. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire ou une citation pour conclure?
Moi, une citation que j'aime beaucoup, c'est « Tous les adultes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. » Donc clairement, pour moi, dans le fait de se connaître, il y a aussi énormément le fait de chouchouter son enfant intérieur et qu'est-ce qui t'apporte de la joie avant qu'on ait rajouté des couches de consensus social et de normes et tout ça. Et évidemment, venez écouter le podcast qu'on va faire tout de suite avec Victoria sur Soif de Sens. Et si vous avez des aspirations plus écolo, féministes ou solidaires, ou vous voulez voir plein de gens qui changent le monde, vous êtes les bienvenus sur Soif de Sens.
Merci Pierre, à mon tour de me faire charcuter.
Salut. Et voilà, si vous avez kiffé cette interview, abonnez-vous au podcast de Victoria qui s'appelle Nouvel Œil. Et si tu l'as loupé, je te conseille vraiment l'interview inverse où j'interview Victoria sur comment devenir adulte dans un monde immature. C'est l'épisode 54 de Soif de Sens. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.